Bonjour à tous. Donc, on va commencer finalement cette première table ronde du festival sur la thématique de l'art de la nouvelle, écrire court, frapper fort. Et nous avons, pour étudier ce thème, autour de la table, donc en partant de la droite, donc Mike Resnick, que vous avez vu tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture, donc auteur américain de romans et de nouvelles de SF et qui a écrit plus de 300 nouvelles. Très actif dans le fandom américain. Il a édité plus de 40 anthologies. Il fait une revue, donc Galaxy's Edge. Il travaille beaucoup, beaucoup en collaboration, puisque j'ai lu que rien qu'en 2014, il a travaillé à la rédaction de nouvelles, de scénarii et de romans avec environ 52 écrivains différents. Donc la coécriture, c'est quelque chose d'important, et le monde de la nouvelle également. Nous avons ensuite Sarah Dock, donc auteure de SF et de fantasy, mais également journaliste, traductrice, organisatrice d'événements culturels autour de l'imaginaire, présidente du prix Julia Verlanger, et qui également a beaucoup travaillé sur la nouvelle. Jean-Claude Dugnac, qui a plein de casquettes. Jean-Claude Dugnac, qui a été chanteur-guitariste d'un groupe de rock, qui a tenu un sex shop pendant une semaine, qui porte.
C'est un mois.
Délai en deçà duquel tu peux pas mettre sur la bio, effectivement. Qui porte très bien le tutu rose, d'ailleurs, par ailleurs. Qui est ingénieur chez Airbus et qui compte plus de 100 nouvelles à son actif, donc là aussi, a beaucoup travaillé sur des nouvelles de genre, de SF, de fantasy, et qui aura sans doute beaucoup de choses à nous dire. Il a dirigé l'anthologie 2015 du festival Imaginal, Troll et Licorne. Et enfin, Estelle Faye, auteur qui a aussi été à une époque scénariste de court-métrage, qui a travaillé dans l'audiovisuel.
Ah, qui l'est toujours aussi.
Et qui est toujours. Et qui, à un moment donné, s'est tournée vers l'écriture en attaquant plus le thème du roman, mais également est venue aux nouvelles. Et elle a notamment eu des nouvelles dans les trois dernières anthos des Imaginales, donc l'édition 2014, Bardes et Sirènes, l'édition 2015, Troll et Licorne, et l'édition 2016, donc dans Fées et Automates. Et elle a également été anthologiste donc d'une anthologie En Dessous, qui est donc une anthologie sur les souterrains. Alors, je voudrais poser la question pour commencer à Jean-Claude Dugnac. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Comment est-ce qu'on définit une nouvelle par rapport au roman, par exemple?
Absence totale de micro, donc voilà.
Ah, vous mettez entre vous deux.
On va mettre l'autre entre vous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? C'est une excellente question, j'en sais rien. Je dirais qu'il y a une espèce de description, de tentative externe qui est que dans la mesure où c'est court, c'est une nouvelle, dans la mesure où c'est un peu moins court, c'est une novella, et dans la mesure où ça atteint un certain niveau, c'est un roman. Mais ce n'est pas une bonne définition. Et la nouvelle, c'est quelque chose qui est, que j'aurais tendance à considérer comme une espèce de pierre précieuse qu'on a tellement polie, ou un coquillage qu'on a tellement creusé, qu'on entend le vent siffler à l'intérieur. Je ne sais pas vous donner une meilleure définition que ça. C'est tout petit, c'est dense. Quand c'est réussi, on met plus de temps à la raconter qu'à la lire. Et c'est un objet totalement inatteignable. Et c'est un des défis les plus extraordinaires quand on écrit. Et au passage, me demander à moi de parler de nouvelles, on aurait mieux fait de me demander de parler d'anciennes, hein, franchement. Bon.
C'est un peu court, jeune
homme. Mike, votre définition de la nouvelle, est-ce que vous avez des choses à apporter par rapport à ce que dit Jean-Claude?
Yeah. Well, the official definition, based on the Hugos, the Nebulas, and a number of other awards, is that a short story is anything under 7,500 words. A novelette is 7,500 words to 17,500 words. A novella is 17,500 words to 40,000. And a novel is anything over 40,000, though in practice it's almost impossible to sell a novel that's under 65 or 70,000 words. Short stories have been the backbone of science fiction for years, because in the 1930s and 40s, when it started getting popular, it was popular in magazine form, and they specialized in short stories with an occasional serial. It wasn't until New York Publishing discovered us in the 1950s that novels became popular. Do you want to catch up?
Alors, il y a des définitions, bien sûr, qui sont données par des grands prix, comme le Hugo, par exemple, aux États-Unis. Donc, les définitions sont très précises. Hein. C'est une nouvelle quand il y a moins de 7500 mots. C'est, alors, je ne connais pas ce terme en français. Novellette, ça existe, d'accord. Une novellette, merci. Une novellette entre 7500 mots et 17500 mots. Une novella entre 17500 mots et 40 000 mots. Et c'est un roman quand c'est 40 000 mots. Mais honnêtement, c'est assez difficile à vendre le roman qui ne ferait pas 65 000 ou 70 000 mots. Donc ça, c'est selon les maisons d'édition. Donc pour ce qui est de la science-fiction, la nouvelle a toujours été très populaire dans ce domaine, surtout dans les années 1930-1940 à ses débuts, où là, les magazines en fait publiaient des nouvelles et publiaient aussi des feuilletons. En fait, ça a été les débuts de la science-fiction. Et dans les années 1950, quand les éditeurs new-yorkais nous ont découvert, là, ils ont commencé à publier des romans.
Oui, en science-fiction, la nouvelle joue un rôle fondamental. C'est une idée, une bonne idée de science-fiction illustrée en quelques pages. Et illustré de la manière la plus courte, la plus efficace et la plus mortelle possible. Et il ne faut pas oublier que dans les âges d'or de la science-fiction, où il y avait littéralement mais des centaines de magazines sur tous les genres, où la nouvelle était en Amérique un genre extrêmement connu, on avait des auteurs qui publiaient des dizaines et des dizaines de nouvelles par an et qui gagnaient leur vie avec ça. Et c'était véritablement ce travail de cristallisation d'une idée, de mise en scène, et tout un tas de concepts extraordinaires de science-fiction ont été illustrés en 30 pages. Quoi. On n'a jamais eu besoin d'un roman énorme.
Et en France, ça a longtemps été la manière pour un auteur de commencer à publier un premier texte, la nouvelle, dans les revues, dans les anthologies. Peu d'auteurs ont commencé directement avec un roman.
C'est même encore beaucoup le cas pour ma génération ou même les plus jeunes. Enfin, moi, j'ai commencé avec deux nouvelles. Et la première fois que je suis venue ici aux Imaginales, j'étais le grand auteur de deux petites nouvelles. Et avec la deuxième de ces deux petites nouvelles, dans une collection qui n'existe plus depuis, j'ai rencontré mon premier directeur de collection. C'est lui qui m'a fait écrire mon premier roman. C'est aussi une des raisons pour lesquelles maintenant je dirige des anthologies. C'est pour justement essayer de donner aux encore plus jeunes auteurs de maintenant ce premier pas, cette possibilité d'avoir un premier texte qui arrive, qui vient dire au monde « Eh, me voilà, regardez les histoires que je veux raconter ». Donc, quelque part, une façon de passer le relais.
Et en France, est-ce qu'il est si facile que ça de publier des nouvelles ? Par exemple, je pense à des auteurs comme Mélanie Fazi qui sont vraiment beaucoup sur des formes courtes. Pour certains d'entre vous, vous avez écrit à la fois nouvelles et romans. Est-ce qu'il est plus facile de proposer des romans que des nouvelles ? Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on dit « je veux arriver avec un recueil de nouvelles », les éditeurs sont un peu frileux en se disant « ça risque peut-être de ne pas se vendre ».
En fait, ça va beaucoup plus loin encore, à part pour certains auteurs, justement, comme Mélanie Fazi ou Jean-Claude Duniac, qui sont des nouvellistes vraiment reconnus. La plupart des éditeurs aujourd'hui disent franchement, un recueil de nouvelles, j'en veux pas. Et expliquent généralement que ce sont les distributeurs et les libraires qui estiment que la nouvelle ne se vend pas, que les lecteurs n'en veulent pas. Et donc, quand on propose un recueil de nouvelles à la plupart des éditeurs de l'imaginaire aujourd'hui, c'est non avant même de lire le texte.
Oui, disons qu'il ne faut pas confondre. Ta question a été un petit peu biaisée à la fin. Proposer une nouvelle unique, il y a énormément de supports. Il y a des revues, il y a des fanzines, il y a des anthologies, il y a beaucoup d'appels à texte. Donc, on arrive à trouver. Effectivement, le recueil, c'est une chose très compliquée pour une raison très simple, c'est que les lecteurs n'en achètent pas. Il ne faut pas se poser des questions. Moi, mes recueils de nouvelles se vendent 10 fois moins que mes romans. Je m'en fous, mais c'est une réalité, c'est les chiffres.
Alors, après, c'est vrai que la nouvelle en sens recueil est difficile à vendre. Maintenant, il y a un paysage vraiment de la nouvelle au sens anthologie, au sens revue, qui est très très vivant et qui est surtout un véritable laboratoire d'expérimentation, j'ai l'impression. Tant pour des jeunes auteurs que même parfois pour des un peu plus confirmés qui viennent tester d'autres choses en nouvelle. et qui n'ont pas peur de mettre un texte à eux, même des auteurs très confirmés, dans des antos, comptés de gens dont c'est le premier texte publié. Donc vraiment, en plus, c'est un superbe endroit pour faire des rencontres entre auteurs aussi, indépendamment du parcours de chacun. Et la nouvelle, j'ai l'impression, après ça débute tout juste, mais c'est vraiment quelque chose qui peut aussi trouver un nouvel essor avec tout ce qui est justement publication en numérique. Parce que une nouvelle en numérique, on peut la mettre à un prix très bas, juste un prix d'entrée. Ça peut être une rencontre avec un auteur qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie d'investir du temps et de l'argent dans un roman. On se dit, tiens, ben, je vais prendre une nouvelle, elle est à 90 centimes, je vais voir ce que ça fait. Et ça, c'est arrivé avec justement ma deuxième nouvelle. Mon éditeur, mon premier éditeur de roman l'a mis en ligne pour quelque chose comme 90 centimes, si ma mémoire est bonne. Et après, j'ai des lecteurs qui sont venus en me disant, j'ai lu votre nouvelle, je ne vous connaissais pas, mais je me suis dit, ce n'est pas un gros investissement, ça m'a plu, je vais lire vos romans. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en numérique, il y a une place pour la nouvelle. On commence juste à voir ce que c'est, à en voir les contours, et ça peut vraiment se développer dans les années qui viennent.
People think because it's short that it's easier to write a short story than a novel, and it's not. It takes less time, but because it's a very short story, you can't waste a single word. And I find that editors, including myself, because I also edit, are much harsher on short stories for that reason than we are on novels. We're always looking for new talent. Jean-Claude, do you have a copy of the magazine with you?
Not here, I'm afraid.
Okay. I edit a magazine called Galaxy's Edge, and the purpose of it is to establish new and lesser-known writers. Now, we can't make a living doing that because none of the readers know who these names are. So we run four reprints an issue by names like George R. R. Martin and Robert Silverberg and Nancy Kress that we can put on the cover that sell the magazine, and that lets me buy 6, 7, or 8 new stories by new and lesser known writers, and we're in our fourth year and we're making money, so there's still a market for new writers. Another thing is, if you're in France, you may very well not be cognizant of all the markets there are. We have 3 digest magazines. We've had them forever. Asimov, Astounding, or what's it called, Analog, and Magazine of Fantasy and Science Fiction. But I checked before I came over here this morning, and there are 16 online magazines that are paying what we consider professional rates, which are 6 cents a word or more. So if you want to get into the market as a writer, there are still many, many opportunities for you. And, of course, it's easiest to get in with a short story simply because, not that it's easier, but that it might take a week or 2 weeks, whereas a novel might take a year or 2 years.
Alors, oui, je pense que la plupart des gens pensent que c'est plus facile d'écrire une nouvelle qu'un roman parce que c'est plus court, mais ce n'est pas exactement le cas, en fait, parce que ça prend moins de temps, bien sûr, comme c'est plus court, mais il ne faut pas gaspiller un seul mot. Tous les mots revêtent une importance capitale dans la nouvelle. Et je pense que c'est ça qui est très important, il faut s'en rappeler. Donc personnellement, je travaille comme éditeur également, pas uniquement comme auteur, et on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc malheureusement, Jean-Claude n'a pas avec lui le magazine où on voit sa photo en couverture.
Non, mais c'est Jean-Gérard Martin qui est en couverture.
Mais toi, tu es dedans.
Pareil, la barbe en plus.
C'est Georges R. Martin en couverture. Donc oui, c'est Georges R. Martin en couverture, c'est pas Jean-Claude. Mais Jean-Claude est dedans, il me semble, non? Oui, c'est ça. Donc Jean-Claude a bien une nouvelle de publier dans le magazine. Donc ce magazine s'appelle Galaxy's Edge, c'est-à-dire aux frontières de la galaxie en français, mais bien sûr, il n'existe qu'en anglais. Il faut savoir qu'il y a un marché quand même assez important pour la nouvelle aux États-Unis. Il y a quand même la possibilité de publier assez facilement des nouvelles aux États-Unis. En mettant un auteur comme George R. R. Martin sur la couverture du magazine, je peux ainsi acheter des nouvelles de 6, 7, voire 8 jeunes auteurs. Et c'est la quatrième année, en fait, qu'on publie ce magazine et on est en train de commencer à réaliser quelques profits. Donc oui, il y a un marché. Il y a un marché pour les nouveaux auteurs aussi. Et je veux dire qu'en France, on ne connaît peut-être pas tous les magazines qui publient des nouvelles, mais aux États-Unis, il y en a quand même quelques magazines très, très importants. Je pense à Asimov, à Analogue. En fait, ce sont des magazines qui publient de la fantasy et de la science-fiction. J'ai regardé ce matin en ligne, il y en a, je crois, 16 magazines qui publient ce genre de nouvelles. Et les
tarifs professionnels, c'est ça surtout qui est important.
La notion de tarif professionnel est importante pour Mike, il a raison. Des magazines professionnels en ligne qui vous payent et qui vous payent bien une nouvelle, il y en a déjà 16 ou 18, je crois. Et si vous comptez ceux qui payent moins bien, vous en rajoutez une bonne vingtaine de plus. Donc il y a un vrai marché, en anglais, oui.
À 6 cents le mot, le tarif professionnel. Donc voilà, il y a des débouchés pour les jeunes auteurs. C'est peut-être plus facile aussi de débuter par une nouvelle parce qu'on consacre moins de temps à la rédaction d'une nouvelle qu'à un roman. Donc voilà, ne vous découragez pas, tentez la nouvelle.
Alors, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse un petit peu plus aux techniques. Comment on écrit une nouvelle? Est-ce qu'il y a des méthodes? Alors, j'ai lu quelque part dans une interview, Jean-Claude, que toi, tu disais déjà que tu aimes bien avoir de la musique quand tu écris, parce que ça te donne notamment un rythme, un martèlement de mots, parce que la rythmique est importante, et que tu travailles aussi sur des fichiers de notes dans lesquels tu écris des choses, et où donc tu aurais dit, je ne commence en général une nouvelle que quand j'ai pratiquement tout de près, y compris les odeurs, les sons, la musique, l'ambiance.
Ça, c'est effectivement la façon dont je travaille, mais c'est pas la façon dont il faut travailler, c'est la mienne. Ce que je peux dire quand même, c'est un point, justement, c'est étonnant, on vient de donner un cours sur l'écriture et on a réfléchi à ça, et la semaine dernière, je faisais un séminaire sur les critères de l'écriture de textes courts et les contraintes que ça posait. La nouvelle, c'est un énorme problème de gestion d'information. C'est un énorme problème de gestion d'information parce qu'on fait une nouvelle dans un univers différent, avec plein de choses qu'il faut dire au lecteur. On n'a pas beaucoup de place, pas beaucoup de mots. Comme le dit Mike, chaque mot est important. Donc il ne faut pas dire les choses, il faut les faire comprendre, les faire sentir. Et il faut que tout ce qu'on dit soit chargé de plusieurs couches de sens. C'est-à-dire que la même phrase vous donne une information, elle en induit une autre, elle rajoute avec du rythme quelque chose que vous percevez sans être nécessairement capable de le formuler, et elle s'articule d'une façon qui va vous faire vous poser des questions qui rajoutent encore de l'information. C'est polir et repolir le diamant jusqu'à ce que toutes les facettes brillent. Voilà. Et Gilles Dumay, qui est éditeur, a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup frappé, parce que je pense qu'il a raison. Il a dit « Je n'ai jamais vu un roman parfait ». Mais j'ai lu des nouvelles parfaites. Et la nouvelle, quand on est écrivain, c'est la possibilité de tendre vers la perfection. On n'y arrive jamais. Hein. Enfin, moi, personnellement, non. Mais on se dit que c'est possible. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, entraîne cette espèce de motivation et de fascination. En plus, une nouvelle, on peut tourner autour de tous les côtés et on peut s'arranger qu'elle soit comme un œuf, qu'elle ne contienne que ce qu'elle doit contenir en étant parfaitement condensée et prête à exploser. Un œuf vibrant sur le point d'accoucher d'un aigle. Voilà. Ça, c'est une belle nouvelle.
Alors, pour moi, la nouvelle, enfin, je m'aperçois au fur et à mesure en écrivant que je la vois vraiment comme un éclat d'univers que par moment je vais mettre en roman ailleurs, qui par moment vont se trouver dans plusieurs nouvelles et qui en même temps doivent exister de manière indépendante, complètement le temps d'un seul texte, en quelques mots. Et le côté gestion d'information dont parlait Jean-Claude Duniac, c'est l'un des grands plaisirs, je trouve, à écrire de la nouvelle. C'est comment jouer avec le lecteur pour lui dévoiler le monde, lui dévoiler les personnages petit à petit, en dévoiler juste assez, mais pas trop, laisser la place à l'imagination. Enfin, vraiment, voilà, c'est ce jeu-là devient dans mon monde et peu à peu, tu vas le découvrir comme si tu avançais un peu dans un palais des glaces dans une fête foraine ou ce genre de choses. Et la nouvelle, ça a aussi un côté vraiment laboratoire d'expérimentation où on peut tester de nouveaux genres, tester de nouveaux mondes. Par exemple, dans l'anthologie de l'année dernière des Imaginales, dirigée par Jean-Claude Duniac ici, il nous avait poussé vers de la nouvelle plutôt légère. qui était quelque chose que je faisais pas avant, et c'est là que j'ai fait ma première nouvelle de fantasy presque comique. Là, je viens d'écrire la deuxième, donc qui est pas du tout dans le même univers, mais qui est encore une fois de la fantasy comique. Donc maintenant, je m'y mets, et c'est grâce à cette anthologie, vraiment. Voilà, ça dépend si on les trouve bien ou pas après. C'est et vraiment, mais c'est vrai que les anthologistes aussi nous poussent parfois dans des directions où on s'imaginait pas aller, et on découvre des choses sur nous-mêmes. Et on les découvre en faisant une forme courte. Donc, quelque part, on ne se dit pas, je vais passer 2 ans, je vais faire un investissement de 2 ans. Par moment aussi, la nouvelle, pour moi, en tout cas, quand j'écris, tout à coup, j'ai une idée, et elle est là, elle a déjà envie d'être écrite tout de suite, bah, celle qui est dans Légende abyssale. Donc, une robe couleur d'océan. C'était dans le train de retour de Charente, parce que je bosse pas mal entre la Charente et Paris en ce moment. Et tout à coup, j'ai eu l'idée comme ça, qui m'est tombée dans la tête. Je l'ai écrite dans le train, je l'ai terminée chez moi en arrivant. Je me suis pas endormie avant de l'avoir écrite. Parce que bah, je venais du bord de l'océan et j'avais cet océan-là dans la tête. Et puis bah, cet océan-là, il continuait à vivre pendant donc, que je prenais le bus qui m'amenait jusqu'au train. Une fois que j'arrivais au train, ça y est, la nouvelle, elle était là. Elle ne demandait plus qu'à être écrite. Et puis corrigée. Et puis recorrigée. Et puis re-re-re-corrigée. Enfin, voilà la vie, quoi.
Moi, quelque part, je triche. Parce que la gestion de l'information, c'est mon métier. J'ai une formation de journaliste. J'ai une formation à la concision. J'ai une formation au cours. Et en fait, c'est plutôt le roman qui est compliqué pour moi. Jean-Claude m'a déjà dit plusieurs fois que je mettais dans une nouvelle le matériel que certains mettraient dans un roman. Parce que j'ai cette formation de... On gère l'information, on fait le plus court possible, on ramasse les choses. Et ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est jouer sur les formes. C'est ne pas avoir systématiquement le même format de nouvelle, l'histoire linéaire, jouer avec la tresse, jouer avec... un faux article, jouer avec des rencontres, des interviews, jouer vraiment avec la forme.
There are a couple of things about short stories that I wanted to point out. One of them is that almost every writer I know keeps a notebook in a pocket because you never know when you're going to get an idea for a story and you never know when you're going to forget it. The second thing is that I find that the computer age has made it much easier on writers in that there are a number of groups of writers in America, I know, that show their stories to other members of the group because maybe there will be a flaw in it that they hadn't seen, and the other members can point it out before it goes out and gets rejected, because usually... Most magazines get so many stories, they don't have time to give you a reason why they rejected it. They just give you a form. And the third thing is a hint I can give to any writer, and this works for books, short stories, anything. Read it aloud, even if you're alone in the room, because you will find awkwardnesses when you read it aloud that you didn't find when you proofread it just for perfect grammar. And frequently, anything that makes a reader stop and think for a minute or pause or go to a dictionary or a thesaurus, he may never come back. So you never want him to have to do that.
Thank you, Mike. C'est vrai que la technique de Mike de lire à...
Alors oui, encore une fois, pour la nouvelle, je pense qu'il y a deux choses que l'on remarque. La première que je voudrais dire, c'est que l'auteur, la plupart des auteurs, gardent sur eux un petit carnet de notes et ils ont toujours peur d'oublier, ils ont des idées et comme ça, et puis ils les notent régulièrement par peur de les oublier. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'ère de l'ordinateur a bien changé notre travail parce qu'il est possible de se relire, de nous faire, entre nous, il existe des groupes d'auteurs qui se relisent les uns les autres et ça, c'est vraiment très, très utile. Parce qu'ils vont relever les points faibles d'une nouvelle, par exemple les points faibles d'un travail que vous avez terminé. Et parce que souvent les éditeurs et les maisons d'édition peuvent vous renvoyer un travail, un manuscrit en le rejetant. jetant avec un formulaire, et ils vous disent pas pourquoi, ils vous disent pas quels sont les points faibles. Donc je pense que c'est très utile d'avoir un point de vue là-dessus sur les points faibles d'un travail. Donc si je peux vous donner un autre tuyau, c'est de lire votre travail à haute voix, parce que on a beau relire son travail une cinquantaine de fois pour relever les erreurs de grammaire ou de style, mais rien ne vaut la lecture à haute voix. Même si vous êtes tout seul chez vous, lisez votre travail à haute voix, parce que là les faiblesses du travail ressortiront assez facilement. C'est vraiment un travail utile, et je dirais que si le lecteur doit réfléchir, s'arrêter, qu'il n'a pas compris un truc et qu'il doit aller fouiller dans un dictionnaire pour comprendre un mot, eh bien il risque de ne pas vous revenir. Donc lisez à haute voix.
Parce qu'il faut, il faut pas oublier non plus que le texte a toujours une musique, a toujours un rythme. Et c'est ça que, en lisant à haute voix, ou même parfois en l'entendant dans sa tête quand on est en train d'écrire, c'est cette musique-là qu'il faut voir, qu'il faut entendre, ce rythme, pour voir s'il n'y a pas de rupture, pour voir s'il n'y a pas d'accroc quelque part qui empêche la lecture.
I would like to say something else about writing short stories or any other thing. You can give up on an editor, but you shouldn't give up on the story. The Left Hand of Darkness was rejected 18 times. Dune was rejected 26 times and sold to a company that specialized, so help me, in motorcycle maintenance. The Forever War was rejected 14 times. My own story, we all have a story like that, every writer. Back in the 1960s, when I was just starting to break in, I wrote a story called The Last Dog, a science fiction story. I thought it was pretty good. There were 7 magazines in the field at the time, and all 7 rejected it. They were paying 2 and 3 cents a word. So very unhappily, I sent it off to something called Hunting Dog Magazine, which paid me 50 cents a word, and it won my first award ever for best short story from the American Dog Writers Association. So as I say, you don't give up on the story. You give up on the editor and the magazine.
What you're telling, basically, is if your story is not good, give it to the dogs.
Ce que je voulais dire, c'est que ne laissez jamais tomber, laissez tomber un éditeur, si vous voulez, n'insistez pas auprès de, ne continuez pas à insister auprès d'un éditeur. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup d'histoires et de nouvelles et de romans qui ont été rejetés, je ne sais pas combien de fois. Donc, Left Hand of Darkness, 18 fois, rejeté 18 fois, Down, 26 fois, Forever Wars, 14 fois. En 1960, j'ai écrit une nouvelle, une courte nouvelle. It's not there, the title. J'ai écrit une nouvelle en 1960 qui a été rejetée par les 7 magazines de science-fiction qui existaient à l'époque aux États-Unis, des magazines qui payaient 2-3 cents le mot. Eh bien, la nouvelle a été acceptée par un magazine, croyez-le ou non, qui publiait sur des histoires sur les chiens de chasse. Et j'ai reçu alors 50 cents le mot pour la nouvelle plutôt que 2-3 cents en science-fiction. Et j'ai même obtenu le premier prix pour les auteurs qui écrivaient sur les chiens de chasse.
Si je peux rebondir aussi sur le paysage de la nouvelle en France. Bon, par contre, il y a des jeunes auteurs dans la salle tout de suite. Le paysage en France est très bénévole, contrairement aux États-Unis. Il y a très peu de chances que vous soyez payé pour de la nouvelle, surtout au début. Mais par contre, ce que vous aurez très souvent, c'est des petits éditeurs qui vont vous faire des vrais bons retours, même si votre nouvelle n'est pas forcément prise pour une anto. Vous pouvez avoir des vrais bons retours qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à aller plus loin. Et il y a même, dans mon cas personnel, pour les antos que je dirige, des auteurs que j'ai pas retenus, à qui j'ai dit, mais quand même, là, tu as vraiment quelque chose où tu pourrais creuser ça, ou ça, je suis sûre que tu peux le mettre ailleurs. Et après, au début, ils ne me croyaient pas forcément, mais 6 mois, 9 mois plus tard, je retrouve la même nouvelle améliorée ailleurs. Je retrouve le même auteur qui a trouvé sa maison quelque part. Et voilà, et ça, c'est vraiment après des auteurs qu'on voit aussi grandir, qu'on voit évoluer. Certains qu'on avait pris au départ, d'autres même qu'on n'avait pas pris, et c'est des liens qui se nouent. Et pour finir, pour ceux qui ne sont pas très internet et tout aussi, il y a la bonne vieille technique pour se faire relire de prenez un pote en qui vous avez confiance et amenez-le au café. Avec votre texte quand même.
Il y a aussi des groupes sur Internet, je pense, Écocyclix, il y en a d'autres, dans lesquels, justement, ce travail de relecture permanent entre nous rend énormément service. Parce que ça n'est pas seulement faire relire ses propres textes, c'est relire soi-même les textes des autres. On apprend beaucoup en relisant les autres avec un œil critique. On apprend d'abord à identifier chez les autres des défauts qu'on n'a pas vus chez soi. Et moi, je sais que la collection des défauts que j'ai, je la connais grâce au fait que j'en ai trouvé éventuellement des traces chez les autres. Et je me suis dit, mais commence par regarder la poutre dans ton œil. Et effectivement, on s'aperçoit de sa collection de défauts. Quoi. C'est une chose intéressante. Et ça, c'est un excellent exercice.
Oui, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et c'est une des choses que j'ai découvert aussi, même en étant anthologiste, par exemple. Ça m'a aidé aussi beaucoup à voir où moi, je voulais aller en tant qu'auteur de nouvelles. Pas forcément d'ailleurs dans les directions où allaient certains auteurs avec qui j'adorais travailler pourtant. Donc ça aide vraiment aussi à savoir qui on est, travailler avec les autres, justement. Et ça, c'est vraiment précieux.
Et si vous savez traduire, traduire est aussi une excellente école pour apprendre à écrire. Parce que se mettre dans la tête et dans les mots de l'autre, voir les défauts, voir les choses qu'il faut éventuellement corriger, voir au contraire les grandes qualités, et devoir les retransmettre, ça apprend énormément de choses.
Et est-ce que c'est plus, puisque tu as l'expérience sur les formes courtes et les formes longues, est-ce que c'est plus difficile, puisqu'on a dit que dans la nouvelle, chaque mot compte, notamment pour l'auteur étranger, donc pour le traducteur, est-ce que c'est pas un peu plus difficile le travail sur un texte court que sur un texte long où on a le temps de s'installer dans le style de l'auteur ?
Évidemment, évidemment. C'est plus difficile, d'autant plus que, oui, les auteurs vont choisir chaque mot, chaque rythme, de manière, j'ai un souvenir comme ça, j'ai traduit pour une revue qui s'appelait Asphodal un texte de Nello Hopkinson, absolument extraordinaire, un texte érotique, avec la difficulté que c'était entièrement écrit autour du sucre et du chocolat, alors qu'en français, le sexe est salé. Et vraiment, je me suis très vite aperçue que chez cet auteur-là, chaque mot, chaque son a une importance. Tout a été choisi de manière extrêmement précise. Et donc, ça demande un travail beaucoup, beaucoup plus approfondi que sur un roman.
Et ça, c'est une règle générale quand on écrit. Si vous voulez apprendre à écrire, prenez un texte, une page d'un auteur dont vous vous dites « ça, c'est bon » et démontez-la. Quand je dis démontez-la, c'est découpez-la, réécrivez-la à la main vous-même pour sentir à la main, dans votre main, quand vous écrivez, comment elle fonctionne, quel rythme elle a. Analysez-la, lisez-la à haute voix, trouvez un moyen de calculer les articulations, etc. Vous avez l'exemple parfait, vous avez... les professeurs, ce sont nos textes. Donc prenez-les, faites ce travail-là et vous allez apprendre énormément de choses. Moi, je continue à apprendre parce que, comme tous les auteurs de nouvelles, je ne sais pas écrire de nouvelles. J'ai su écrire les nouvelles précédentes. Le gros problème, c'est d'écrire la suivante qui me pose d'énormes problèmes parce que, justement, c'est ça qui la rend intéressante. Je peux vous dire, j'ai une idée de novella en ce moment, je suis en train de me gratter la tête en disant « est-ce que tu es capable ?» Et je ne sais pas le faire. Donc je vais apprendre en essayant de comprendre quels sont les outils qui me manquent et il va falloir que je les fabrique. Et ça, ce sont les textes déjà écrits qui vont m'aider à le faire.
Ok, there is something else that's worth mentioning, and that is a story is never through selling. Books are a little harder to sell to many different countries because book publishers publish less books than story publishers publish stories. I think I average about 8 sales for every story I do, and my record, I believe, is 34 for a story called I Have Touched the Sky. One of the things you do is you go to big conventions, whether here or the Worldcon or anywhere else, and you meet the translators from those countries, because you have to think that an editor who only speaks his own language when your story comes in isn't going to know quite what to do with it. Mostly, they are guided by the translators who read the story and say, oh, this is a good one, buy it, I can do a good job with this. But you're never, never through earning money with a story. You can sell it again and again. I'm not aware of any country in Europe, except Slovakia, and I think even that's changed, where it's not a market for short stories. So are Japan, Australia. China is a fantastic market. Their average sale for a science fiction magazine called SF World is 500,000 copies a month. In America, you're lucky if you're doing 30,000 a month for the magazines. So that's really something else to consider. Once you're done and you've sold it, don't put it in the attic and forget about it.
Il y a encore autre chose pour que la nouvelle, qui est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est le nombre de ventes que l'on peut faire. Parce que moi, par exemple, j'ai une nouvelle, I Have Touched the Sky, que j'ai vendue 34 fois. Donc la vie d'une nouvelle, ça peut être 8 ventes de la même nouvelle à différents supports. Par exemple, une des choses qui peut être utile, c'est d'aller à des salons comme celui-ci, ou alors à Worldcon, ou d'autres salons littéraires comme ça, dans d'autres pays. Et là, moi, je vous conseille d'aller vers les traducteurs, de vous rapprocher des traducteurs, parce que les maisons d'édition, les magazines qui publient des nouvelles, eh bien, se fient aux traducteurs parce qu'ils ne comprennent pas toujours la langue de départ. Donc ils se fient beaucoup aux traducteurs. Et donc allez-y, rencontrez les traducteurs. Autrement, à part la Slovaquie, je pense qu'il n'y a pas vraiment de marché pour la nouvelle. Il y a des pays comme le Japon ou l'Australie où la nouvelle se vend vraiment très très bien. Et vous savez, en Chine, il y a un magazine qui s'appelle SF World. Eh bien, ils en vendent 500 000 numéros par mois. Vous savez, aux États-Unis, si on vend 30 000 numéros de notre magazine de science-fiction, c'est bien. Donc, allez-y, allez vers ces marchés étrangers.
Alors, j'ai entendu plusieurs fois le terme prononcé, donc anthologie, anthologiste. L'anthologie, donc, va être autour d'un thème, un recueil qui rassemble divers textes. Et vous avez tous, plus ou moins, à des niveaux divers et variés. Alors, Mike l'a fait beaucoup, Jean-Claude l'a fait. Vous avez tous découvert ce que c'est qu'être un anthologiste. Là, du coup, vous n'êtes pas du côté de l'auteur, mais du côté de celui qui va faire travailler les autres. Donc, est-ce que c'est particulier à faire comme travail et comment est-ce que vous travaillez avec les auteurs que vous dirigez ? Jean-Claude, tu commences ?
Ouais, je vous conseille. Moi, pour moi, ça change rien d'être. Enfin, si, ça change une chose extrêmement importante, c'est que quand je suis anthologiste, je suis payé pour faire le travail que je fais au quotidien avec pas mal d'auteurs de nouvelles que je fais travailler, avec qui je bosse, sachant qu'ils retravaillent mes textes. Ça change effectivement quelque chose parce que on a un client qui est l'éditeur de l'anthologie, donc on lui doit quelque chose qui est professionnel, qui est propre, etc., etc. En même temps, on a vendu un projet en général et on a envie que ce projet aille jusqu'au bout. Et je garde des souvenirs effectivement à certains moments comme anthologiste de me dire tiens, j'avais toujours une idée derrière la tête. Par exemple, quand j'ai fait l'anthologie Escale 2000, la deuxième anthologie d'Escale sur l'horizon, j'avais envie d'avoir des auteurs canadiens parce que j'aimais beaucoup la science-fiction française, l'expression française au Québec. Et bon, je suis allé harponner mes amis Yves Ménard et Jean-Louis Trudel en disant il faut que tu me fasses quelque chose. Quoi. Et il y a dans l'Escale 2000, il y a une novella d'Yves Ménard que je n'ai jamais réussi à oublier, qui s'appelle Soldat de sucre, qui est un texte absolument admirable. Et il y a un texte de l'ami Jean-Louis sur le scorpion, qui est aussi un texte fantastique. Donc j'avais cette idée-là. J'ai fait une anthologie en collaboration avec Jeanne de Batz pour le festival de Paris, l'anthologie du festival, où j'avais dit ce qui serait intéressant, c'est d'avoir d'un côté des auteurs confirmés et de l'autre d'ouvrir l'appel d'offres des auteurs à des auteurs non encore publiés et en particulier aux Cocyclix. Donc j'ai dit aux gens de Cocyclix, ok, je vous réserve un créneau et je vais vous lire. Et il y a eu une espèce d'émulation qui s'est faite. Je leur ai dit, travaillez entre vous, sachez que vous réussirez collectivement ou personne. J'espérais avoir un bon texte, j'en ai pris 4 et l'un des 4 a été finaliste du Rony. Et personne qui a lu cette anthologie n'a pu dire « Ah oui, mais les 4 petits jeunes, ils sont vraiment un cran en dessous des professionnels. » C'était 4 bons textes. Et ça, en tant qu'anthologiste, ça me rend extrêmement fier, pas d'avoir fait le boulot, parce que c'est eux qui ont fait le boulot, mais de me dire « J'ai ouvert cette porte-là, et maintenant, ce sont des gens qui font des choses. »
Il y a vraiment cette idée d'ouvrir des portes qui fait super plaisir. Alors moi, en tant qu'anthologiste, je suis beaucoup plus petite que ce grand monsieur. J'en suis à diriger ma deuxième anthologie. Je suis du côté encore non payé de la force, hein, en tant qu'anthologiste. Et par contre, on fait vraiment sur appel à texte, ouvert à tout le monde. Après, on a la très grande chance qu'il y a des auteurs confirmés qui nous font confiance, qui viennent aussi participer. Et à chaque fois, dans l'appel à texte qu'on cherche, quand on a reçu tous les textes, donc on les lit complètement à l'aveugle, et ce qu'on cherche, c'est pas forcément le texte qui va être le plus parfait tout de suite, mais le texte dans lequel il se passe quelque chose, dans lequel on entend une voix différente, quelque chose qu'on n'a pas entendu ailleurs, même si parfois il y a un boulot de correction de malade. Alors il y a même un auteur dans ma première anthologie, sur Les Souterrains, on lui a carrément mis le marché en main. Écoute, on ne prend pas ton texte tout de suite, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. On n'a pas envie non plus de le laisser tomber. Si tu fais bien les corrections, tu seras peut-être pris, mais on ne va pas te le garantir à 100%. Est-ce que tu es prêt quand même à bosser comme ce n'est pas permis, en sachant que tu n'es pas sûr d'être pris? Il a dit « Banco, je prends ». On a bossé comme ce n'est pas permis. En plus, c'était la première fois que je travaillais avec un auteur québécois, donc on ne s'est jamais croisé, enfin, sauf par Internet. Notamment, on devait doser la dose de vocabulaire québécois qu'il allait avoir dans son texte pour garder une patte québécoise sans perdre le lecteur français. Enfin, on s'est beaucoup amusé là-dessus. Et au final, c'est un des textes qui a eu les meilleures critiques de toute l'anthologie. Donc voilà, en plus, on était tous super contents. C'est un texte, donc c'était sur Les Souterrains, et lui nous avait envoyé quelque chose qui se passe quasiment entièrement dans les fosses septiques des toilettes d'une aire d'autoroute, donc du côté de Montréal. Voilà, ouais, c'était un chouette texte.
Comme quoi, les goûts et les couleurs. Hein.
Ouais. Ah, mais c'est pas un texte forcément que j'aurais écrit moi, mais c'est ça justement, et je pense que pareil pour un peu tout le monde ici, c'est d'aimer des textes qui ne seraient pas ce qu'on écrirait nous, mais qui ont quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait triper, et c'est pour ça qu'on est là aussi, quoi.
I'd like to say a little something about anthologies. For new writers, newer writers, it's much easier to sell anthologies than sell to the magazines. And the reason is that most magazines run 5 or 6 stories, which means your name's probably going to be on the cover. And if the name has no value in terms of selling the magazine, the story had better be truly outstanding. Whereas with anthologies, and I've edited more than 40 of them, you average about 20 to 25 stories. Now, as an editor, you'll want 10 or 12 names that you can tell the sales staff to, you know, go out and push these guys. But you can buy from about 7 or 8 new writers. It doesn't hurt the anthology sales because you never put 25 names on the cover. And it's a better market for beginners for that reason.
Je voudrais ajouter quelque chose au sujet des anthologies. Je pense que c'est vraiment plus intéressant pour un auteur débutant de se faire publier dans une anthologie. Simplement parce que si on publie un magazine, on met quoi, 5-6 noms d'auteurs sur la couverture. En fait, on publie 5-6 nouvelles dans une anthologie, dans un magazine. Et donc, il faut vraiment, en fait, que l'histoire se tienne bien, que la nouvelle soit vraiment fabuleuse pour qu'elle se vende bien, parce que le nom d'un débutant ne sera pas attractif pour le public. En fait, dans une anthologie, on a la chance de pouvoir publier 25 nouvelles environ. Et donc, on peut, moi j'en ai publié une quarantaine d'anthologies personnellement, et donc on peut attirer peut-être 10, 12 grands noms qui vont attirer le public et se permettre de publier 7 ou 8 inconnus ou nouveaux auteurs, parce qu'on ne pourra pas mettre les 25 noms sur la couverture. Et donc, moi je dis, allez-y, visez les anthologies, c'est vraiment un bon point de départ.
Alors, une dernière question pour chacun des auteurs présents. Donc, dans votre expérience de novelliste, est-ce qu'il y a un texte qui vous a particulièrement marqué parmi les autres? Et si c'est le cas, pourquoi? Mike.
Excuse me. The first story that struck me? Probably when I was a 9 or 10-year-old kid, Ray Bradbury's The Veldt.
Et bien, la première nouvelle qui m'a vraiment, vraiment touchée, je dois dire, ça, c'est une nouvelle de Ray Bradbury, The Veldt, que j'ai lue quand j'avais 9 ou 10 ans.
Je vais à ce moment-là citer Déchiffrer la trame de Jean-Claude Duniac.
Alors, justement, en parlant de Déchiffrer la trame, ça m'évoque une question. C'est un texte qui a eu un très important succès. Elle a été traduite dans 14 langues. Elle a remporté des prix dans plusieurs pays. Elle a remporté le prix René Aîné en 1998. Qu'est-ce qui fait le succès d'une nouvelle? Et est-ce que tu t'attendais à... Je sais qu'on t'a déjà posé la question, mais...
Ma pauvre amie, si je le savais, je ferais que des nouvelles comme ça. Je ne demanderais pas mieux de refaire Déchiffrer la trame tous les matins. Moi, ça serait génial. Je ne sais pas pourquoi. Michel Jury, qui est un ami qui me manque beaucoup, a dit un jour, il m'a dit, dans cette nouvelle-là, je crois que le bon Dieu t'a parlé à l'oreille. Je ne sais pas vous dire autrement. Voilà. Et si tu me demandes la nouvelle qui m'a marqué, ben en fait, il y en a eu deux pratiquement à la même époque. J'étais tout jeune. J'ai lu un texte de Samuel Delaney qui s'appelait « Le temps considéré comme une hélice de pierre semi-précieuse ». J'ai vu ce titre-là, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et parce que c'était ça, j'ai commencé à le lire. Et à la fin de la nouvelle, j'ai dit, si c'est ça qu'on peut faire, je veux pouvoir le faire. Et il y a un recueil entier d'un monsieur qui s'appelait Ballard, qui s'appelle Vermilion de Sands, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu en termes de recueil de nouvelles. Comme Kirinyaga, d'ailleurs, de Mike Resnick. Mais c'est vraiment quelque chose de parfait. Et chaque fois que... mon épouse a le sentiment que peut-être je me prends un peu la tête ou que je suis un peu dans les étoiles. Elle me dit, tu n'écriras jamais Vermilion de Sands. Et je m'écrase au sol de manière en disant, c'est vrai, il faut que je retourne bosser. Voilà. Si tu n'écriras jamais Vermilion de Sands, donc le recueil de nouvelles de Ballard. Et à ce moment-là, moi, ben, voilà, je retourne bosser.
Bien, c'est un petit peu ce qui va nous servir de conclusion. Tu avais quelque chose à dire, excuse-moi.
Ah non, Junon, non, juste pour dire, en nouvelles qui m'ont marqué. Alors, la toute première, c'est toute jeune, c'est une nouvelle de Leclésio, dont depuis j'ai oublié le titre, mais qui parlait très bien d'océan. C'était juste l'histoire d'une fille au bord de l'océan, il se passait... Voilà, merci, le labaï. Et je n'avais pas l'impression qu'il se passait grand-chose par rapport au livre d'aventure et de chevalier que je lisais à côté. Et pourtant, il y avait une ambiance qui faisait que je n'arrivais pas à m'en détacher. Et cette impression-là, je l'ai retrouvée que beaucoup plus tard dans une nouvelle, en fait. Alors que j'en ai lu beaucoup, beaucoup, énormément. Mais pour avoir une nouvelle qui marque autant, j'ai dû attendre assez longtemps. Et il y a une nouvelle de fantasy, s'il y en a une que vous lisez dans, voilà, suite à cette table ronde et à ce que j'ai dit, c'est Notre-Dame des Algues de Nathalie Dau. Nathalie Dau, qui est une énorme auteure, qui est là aux Imaginales cette année. Et ce qu'elle écrit, c'est Notre-Dame des Algues, ça m'a bouleversé, mais à un point, je ne croyais pas qu'une nouvelle pouvait encore me faire ça. En plus, j'étais plus aussi jeune, donc vraiment, allez la voir, lisez Notre-Dame des Algues, et c'est juste fabuleux.
Voilà, donc, voilà, justement, c'est ce que je voulais demander. Comme il nous reste encore quelques minutes, est-ce que vous avez des questions ?
Moi, j'ai quand même une remarque, c'est que on a publié quand même un certain nombre de recueils de nouvelles, bon, pas seulement dans le genre de l'imaginaire. En littérature générale, vous avez des gens comme Borges, vous avez Salinger, vous avez Raymond Carver, vous avez Fitzgerald, enfin, vous avez des auteurs de nouvelles extraordinaires. On n'est pas obligé de lire uniquement de la SF et de la fantasy. Et là, vous avez des leçons. Vous avez des leçons de narration. Vous avez des choses parfaites. Vous avez des choses qui vous font frissonner tellement elles sont chargées de magie. Et franchement, se plonger dans des novellistes et lire des nouvelles, c'est de temps en temps faire des rencontres extraordinaires. C'est des rencontres qui ne durent pas longtemps. C'est, vous savez, deux bateaux qui se croisent dans la nuit, comme on dit, mais c'est des choses qui sont totalement inoubliables. J'ai vraiment dans ma tête des nouvelles inoubliables. Et c'est une chance que j'ai.
There's one thing we hadn't mentioned, and that is humor is a very difficult thing to sell in most fields. But science fiction has always been an open market for humor. I myself have sold, according to my bibliographer, over 100 funny stories. And Robert Sheckley must have sold 200. And there's never been a time you couldn't sell humor in science fiction. So something to consider.
Et vous avez l'humour, ça peut être aussi un argument à votre faveur. Alors moi, je pense qu'en science-fiction, il y a un marché pour la nouvelle comique. Personnellement, mon publiciste me dit que j'en ai vendu une centaine. Et il y a Sheckley, lui, il en a vendu au moins 200. Donc je pense que l'humour, ça peut être quand même bien.
Oui,
So what can you tell us? We're talking about Ray Bradbury.
Moi, je dirais que c'est pas
obligatoire.
Pareil, la nouvelle chute est une forme en soi, mais il y a des nouvelles qui n'ont pas besoin absolument d'une chute.
Et puis il y a l'ouverture qui est aussi importante, ce qu'on appelle l'incipit. Déjà le simple fait d'avoir un titre qui te perturbe est une chose importante. Dans une nouvelle aussi, il y a des moments où il doit y avoir peut-être un rebondissement, une culbute, une métamorphose au sein de la nouvelle, sachant que ça fait 20 pages. La chute, c'est aussi une des façons de rester en tête. Tu as, suivant la taille, tu as une espèce de gestion d'information. C'est comme quand tu fais un petit morceau de musique de 3 minutes de temps, tu peux terminer en faisant blam, et c'est une chute, ou tu peux terminer en ad-lib avec un petit truc où on chante doucement pour que ça disparaisse, et c'est beaucoup plus calme et plus lent, ou tu peux, alors que tu as l'impression que l'histoire est terminée, en quelques lignes, lui redonner une nouvelle vision. Il y a une nouvelle qui est américaine, qui est extrêmement connue, d'un monsieur qui s'appelle O. Henry, et ce qui est une nouvelle absolument fabuleuse. Le principe, c'est que vous avez un jeune couple désargenté, mais qui s'aime très fort, et lui, la seule chose de valeur qu'il a, c'est la montre à gousset que lui a léguée son père. Et elle a une chevelure absolument magnifique, et lorsqu'ils fêtent leur première année de mariage, lui met sa montre à gousset au clou pour avoir de l'argent pour lui acheter un peigne en écaille, et elle fait couper ses cheveux pour les vendre à un coiffeur qui fait les perruques, pour lui acheter une chaîne pour sa montre. Et au moment donc où chacun ouvre les cadeaux, la nouvelle, on pourrait la croire comme s'effondrant, on se dirait, mais quel élément kafkaïen. Et la raison pour laquelle la nouvelle est géniale, c'est que à 5 lignes de la fin, les deux personnages éclatent de rire en disant, mais on est jeune, mes cheveux vont repousser, je vais gagner suffisamment d'argent pour retirer ma montre du clou. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement prendre une espèce de pari pour l'avenir, et on l'a gagné. Et parce qu'il y a ça, cette nouvelle est extraordinaire. Et ça, c'est une chute qui suit la chute. Et donc, à ce stade-là, on peut le faire.
Et puis parfois, laisser une nouvelle ouverte, laisser un texte ouvert, c'est aussi laisser vraiment la place au lecteur de continuer l'histoire, de continuer à vivre dans ce monde-là, de continuer à y réfléchir.
Puis par contre, si vous voulez dire des nouvelles à chute, en dehors de la science-fiction, avec quelqu'un qui savait les faire, vous avez pratiquement toute l'œuvre de Fitzgerald, où vous avez des nouvelles, moi, des nouvelles que je relis religieusement tous les 2 ou 3 ans. Je sais comment ça finit, je me fais avoir quand même. Donc là, respect.
Puis Fitzgerald, il y a même des moments où ça flirte un peu avec le fantastique quand même.
Mais on lui pardonne.
Oui, pardonne.
Bien. Ben, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti, donc je tiens à remercier les auteurs présents pour leur contribution passionnante. Je vous encourage, public, à lire davantage de nouvelles si vous n'en lisiez pas encore, et à découvrir en tout cas l'univers de ces différents auteurs, et vous pourrez les rencontrer à la Bulle du Livre où ils seront en dédicace normalement maintenant et tout au long du festival. Merci à vous.
Thank you.